Sans doute à Abadan et Arvaz, pour fuir la répression en Irak, sans que l'on sache quoi que ce soit de son parcours iranien. Je crie vers le golfe, ô golfe, tu offres la perle, la coquille et la mort. Et l'écho revient, comme un sanglot, tu offres la perle, la coquille et la mort. Ces vers que je ressasse moi aussi me reviennent comme un écho. Le chant de la pluie, que l'Irakien chassé de l'enfance et du village de Jaïkour par la mort de sa mère, lancé dans le monde et la douleur, un exil infini. Comme cette île du golfe Persique, jonchée de coquillages morts. Il y avait dans son œuvre des échos de T.S. Eliot, qu'il avait traduit en arabe. Il s'était rendu en Angleterre, où il avait terriblement souffert de la solitude, d'après ses lettres et ses textes. Il avait fait l'expérience de l'Unreal City, et était devenu une ombre parmi les ombres du London Bridge. Here, said she, is your card. The drowned Phoenician sailor. Those are pearls that wear his eyes. Look. La naissance, la mort, la résurrection, la terre en jachère, aussi stérile que la plaine d'huile du golfe. Sarah fredonnait mon lead sur les vers du chant de la pluie, lent et grave, aussi funèbre que prétentieux, là où Sayab avait été modeste jusqu'au bout. Heureusement que j'ai arrêté de composer des mélodies. Il me manquait l'humilité de Gabriel Fabre, sa compassion. Sa passion sans doute aussi. Nous avons récité des vers de Sayab et d'Eliot devant le vieux fort portugais jusqu'à ce que deux chèvres viennent nous tirer de notre contemplation. Des chèvres au poil d'un brun rouge, accompagnées d'une petite fille au regard brillant de curiosité. Les chèvres étaient douces, sentaient très fort. Elles ont commencé à nous bousculer du museau, doucement mais fermement. Cette attaque homérique mit fin à notre intimité, l'enfant et ses animaux ayant visiblement décidé de passer l'après-midi avec nous. Elles poussèrent l'obséquiosité jusqu'à nous raccompagner, sans rien dire, sans répondre à aucune de nos questions, à l'embarcadère d'où repartaient les canots pour Bandar Abbas. Sarah trouvait comique cette fillette qui ne se laissait pas approcher et, contrairement au capriné, fuyait dès qu'on tendait la main vers elle, mais revenait à 1 ou 2 mètres de nous quelques secondes plus tard. Moi, je la trouvais plutôt effrayante, surtout pour son mutisme incompréhensible. Les passe-dards de l'embarcadère n'ont pas eu l'air le moins du monde troublé par cette môme qui nous collait au basque avec ses biquettes. Sarah s'est retournée pour saluer l'enfant de la main, sans déclencher aucune réaction de sa part, pas même un geste. Nous avons discuté longtemps pour comprendre la raison d'un comportement aussi sauvage. Je soutenais que la gosse, 10, 12 ans tout au plus, devait être dérangée ou sourde, peut-être. Sarah la croyait juste timide. C'est sans doute la première fois qu'elle entend parler une langue étrangère, disait-elle, ce qui me paraissait improbable. Quoi qu'il en soit, cette étrange apparition fut, avec les militaires, les seuls habitants que nous aperçûmes de l'île d'Ormuz. Le pilote du retour n'était pas celui de l'aller. Mais son embarcation et sa technique nautique étaient exactement les mêmes. À ceci près qu'il nous débarqua sur la plage, relevant son moteur et échouant son bateau sur le fond sableux, à quelques mètres du bord. Nous eûmes donc la chance de pouvoir tremper nos pieds dans l'eau du golfe Persique et vérifier 2 choses. L'une, c'est que les Iraniens sont moins stricts qu'on pourrait le penser et qu'aucun policier caché sous un galet ne se précipita sur Sarah pour lui ordonner de dissimuler ses chevilles, partie pourtant tout à fait érotique du corps féminin d'après les censeurs, et baisser ses bas de pantalon. L'autre, plus triste, est que si j'avais douté un seul instant de la présence d'hydrocarbures dans la région, je pouvais être tout à fait rassuré. J'avais la plante d'un pied immaculée de taches épaisses et collantes, qui, malgré des soins acharnés dans la douche de l'hôtel, me laissèrent longtemps une auréole marronasse sur la